Et moi, je suis ravi vraiment que tu programmes Frères de Classe ce soir, parce que c'est une histoire qui nous concerne tous, c'est une histoire humaine, une histoire sociale, une histoire qui va vous parler, j'imagine. Bon, bientôt, ce film va bientôt avoir 10 ans. Moi, j'ai l'impression que c'était encore hier. C'est une histoire qui m'a animé depuis très très longtemps. Vous allez voir, on va en discuter. Et voilà, quoi. Et moi, je suis très très content parce qu'il y a des gens qui viennent du quartier, mais il y a des gens qui viennent de beaucoup plus loin, de la lointaine banlieue. Hein, donc, il faut noter. Bon, il faut vraiment aimer le cinéma, le documentaire pour voir des films. Et j'ai vu dans des endroits voilà, comme celui-là, où on fait du lien social, où on parle de cinéma, où on parle des luttes, où on parle de la vie en général. Et moi, je suis ravi d'être là ce soir. Voilà, encore une fois, après, on discutera effectivement de comment on a fait ce film, comment j'ai fait ce film, comment il s'est construit, et pourquoi.
J'en profite juste pour remercier justement les personnes qui sont là, qui sont venues de banlieues éloignées. C'est un peu grâce à elles que je t'ai rencontré et que j'ai connu ton film. C'était à l'occasion d'un petit festival qui s'appelle Bobine Rebelle et qui est aussi très chouette. Donc voilà.
Je note que je suis du quartier.
Moi j'avais trouvé ce film super quand je l'ai vu et sur l'humanité qui aurait bien fait bien, parce que quand même ce CRS, finalement vis-à-vis de ce copain ouvrier, c'est un peu toujours la même classe quand même, c'est pas que la même classe d'école, c'est vraiment la même classe aussi ouvrière finalement. Est-ce que toi tu peux rajouter quelque chose tout de suite ou est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir tout de suite?
Comment vous avez eu l'idée de reprendre cette affiche et d'aller voir les gens une fois qu'ils ont vieilli?
C'est toujours important la genèse d'un film, vous avez raison. Quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a le point de départ de tout ça. Ah ouais? Non, mais en fait, simplement, je raconte dans le film cette image. Moi, je l'ai vue la première fois, j'avais 6 ans. Voilà, après, ça a dû imprimer mon cerveau quelque part. Et en fait, l'histoire est revenue en 98. Je développais un film, j'avais envie de faire un film sur les Kanaks. Un sujet qui n'a pas forcément à voir, quoique. Et j'ai commencé à travailler là-dessus. Et en fait, parce qu'il y avait l'histoire d'Ouvéa, c'était pour parler des 10 ans de la tuerie d'Ouvéa, des Kanaks qui ont été tués par la gendarmerie française, entre autres. Et je me suis souvenu de ce conflit, quoi, que c'était très particulier, aussi bien Kanaki, et puis tout d'un coup, cette image m'est revenue en mémoire, quoi. Et je me suis dit, mais merde, qu'est-ce que c'est devenu tout ça, quoi, tout simplement, quoi. Et j'ai eu envie d'explorer ça, en fait, cette image-là, et l'histoire, et tout ça, c'est comme ça que c'est venu, quoi. Et en fait, j'ai pas pu faire mon film sur les Kanaks, malheureusement. Pour plein de raisons, et j'ai développé autrement cette histoire-là, quoi, celle du joint français.
J'ai une double question. Premièrement, est-ce que le joint actuellement, au niveau des circonstances qui sont historiques, j'imagine pas que c'est de la fiction, ce que vous avez. C'est un documentaire, vous l'avez indiqué. Donc, est-ce que vous avez. Des nouvelles sur l'existence toujours de ce joint français, est-ce que ça a apporté quelque chose qu'ils ont en conflit? La deuxième question, c'est de savoir, est-ce que toutes ces utopies, est-ce qu'elles vous semblent renaquir actuellement ou avec vos yeux, parce que j'ai compris, vous étiez impliqué dans votre famille dans mai 68, est-ce que vous êtes en train de sentir un bouillonnement, peut-être une effervescence que ça va donner? Je ne sais pas, je vous pose la question.
C'est rien, je ne suis pas devin, mais le climat, il n'est pas forcément à la révolte, alors que les conditions sont révoltées. Bon, mais ça, c'est un autre débat. Après, pour ce qui est du joint français, donc c'est une usine. En fait, l'histoire du conflit, elle est simple, c'est en fait une délocalisation intérieure. Il se trouve que les ouvriers bretons, enfin, il y a eu tout un... Dans les années 70, Pompidou a lancé un grand programme d'industrialisation des régions, comme la Bretagne notamment, où il y avait peu d'industrie. Enfin, il y avait des industries portuaires comme Saint-Nazaire, etc., Brest, mais du côté de la Côte d'Armor, il y avait peu de choses. Et en fait, C'est la General Electric, qui était un grand groupe qui existe toujours, qui a développé l'usine du joint français à Saint-Brieuc, parce que la municipalité qui était PSU à l'époque, hein, c'était quand même assez étonnant, il y avait deux villes en France, il y avait Grenoble et Saint-Brieuc, avec un maire qui s'appelait Le Foll, qui a fait beaucoup pour la région, enfin qui était impliqué dans le mouvement social, enfin bon, bref, c'est une poche, on va dire, une poche rouge et noire, quoi, Saint-Brieuc, quoi, quelque part, enfin. Et c'était, oui, bon, effectivement. Mais, et donc, c'est délocalisation intérieure parce que la ville a cédé pour un franc symbolique le terrain. Donc, les entreprises, cette entreprise-là, qui était implantée en région parisienne à Beson, dans le Val d'Oise, a délocalisé d'une certaine façon une partie de sa production en Bretagne parce que d'une part, les ouvriers bretons coûtaient moins cher, la main-d'œuvre était docile et que le terrain était accessible. Donc vous voyez, les délocalisations, la mondialisation, c'est pas nouveau, ça s'est fait déjà au niveau national. Bon, voilà, enfin, ça c'est pour parler. Aujourd'hui, je vois un français, à l'époque, quand il s'est implanté en 62, il y avait 1500 ouvriers, quoi, à peu près. Aujourd'hui, le joint tourne toujours, il y a eu différents conflits, mais il y a eu aussi différents, plans de licenciement, etc. Ils sont 900 encore à Saint-Brieuc. C'est encore une boîte qui tourne, hein, et effectivement, le joint est marqué, enfin Saint-Brieuc est marqué au fer rouge de cette lutte, quoi. Ça, c'est dans la mémoire collective, il y a eu un turnover énorme, il y a eu près de, à l'époque, dans les années 70, environ 15 000 personnes qui sont passées par le joint français, qui ont travaillé, qui ont fait des jobs d'été, qui ont fait des petites missions d'intérim, etc. Donc c'était vraiment la boîte qui a alimenté, en main d'œuvre, tout le monde a été touché. Dans chaque famille, il y a quelqu'un qui a bossé au joint français. Donc évidemment, quand en 72, ces ouvriers-là disent, en fait, leur seule revendication, c'est de dire, nous, on veut être payés comme ceux du Val d'Oise, comme les Parisiens. Et ils demandent, en fait, leur ajustement de leur salaire horaire, journalier, à celui des Parisiens. Et c'est pour ça qu'ils partent 70 centimes. C'est pour ça qu'ils partent en lutte, quoi. Et voilà, donc, avant, il y avait eu des choses, il y a eu des mouvements, par exemple, en 68, Saint-Brieuc, il y a quand même un bassin un peu industriel, parce qu'il y a Chapoteau et Maurice, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les chaudières, par exemple, pour ceux qui sont chauffés au gaz, fermées, qui a fermé il y a 2 ans, entre autres, pourtant, il y avait du monde, il y avait les usines Sambre-et-Meuse, dans lesquelles Guy, après, parce qu'avec le conflit, évidemment, c'est une figure, il ne peut plus retourner au joint. Il est blacklisté, il va bosser à Sambre-et-Meuse, et à Sambre-et-Meuse, ils travaillent pour l'armée, en fait. Ils font de la métallurgie pour les chars Leclerc. C'est ça, ils font des chenilles du char Leclerc. Bon, c'est comme ça, et c'est une usine classée Céveso, qui tourne encore, qui est en plein centre de Saint-Brieuc, je vous dis pas si le jour ça pète, quoi. Bon, enfin bref. Ça, c'est un détail, mais voilà, c'est pour vous dire que, effectivement, les municipalités successives ont essayé que la ville se défaire, en fait, de cette image de la révolte populaire, de la solidarité énorme qu'il y a eu au cours de ce mouvement, a essayé de lisser, de mettre ce conflit-là sous une chape de plomb en disant, bon voilà, faut pas que ça nous colle trop à la peau parce que les industriels, parce que les. Enfin bon, les gens ne veulent plus investir sur la région, etc. etc. Mais finalement, ça leur colle à la peau. Et puis pour certains, ils s'en revendiquent aujourd'hui, quoi. Enfin, je pense que ce film, il a contribué aussi en partie à réhabiliter ce combat-là, à remettre... Bon, alors, il y avait eu des choses de fait quand même dessus, évidemment. Hein, mais moi, quand je l'ai entrepris, ça a redonné un élan, quoi, quelque part, à cette mémoire-là, quoi. Et c'est vrai que ça a été bénéfique, quoi. La preuve en est, c'est qu'à ce moment-là, la dernière séquence, les bistrots de l'histoire, animés par Pierre Fénard, sur la mémoire du bassin de la Côte d'Armor, Saint-Briochin, des histoires populaires, etc. Et dans la soirée, il y avait un moment consacré à la lutte du joint français. Et puis pour ce qui est aujourd'hui des mouvements, on voit bien, moi comme je l'ai dit en préambule, il y aurait de quoi effectivement de s'énerver un peu, d'être en colère, pour plein de raisons. Bon, les gens, ils ont peur. c'est la crise, je ne sais pas quoi, enfin, on nous bassine avec la crise, mais ce n'est pas la crise pour tout le monde, ça on le sait tous. Des richesses, il y en a, on le sait tous. Bon, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour résister à tout ça? Bon, voilà, après on verra bien comment les choses se passent, mais ça dépend de nous aussi, il ne faut pas attendre de personne, quoi.
Bonsoir, Jacques de Nanterre, pas loin de besoin. J'ai regretté un petit peu de ne pas trouver dans le film ce que tu viens de nous dire là, dans les 5 dernières minutes. Je pense que tu aurais pu, c'est un choix, donner un contexte un peu plus précis. Et de même, je pense, des archives de presse un peu plus nombreuses. Je pense que ça aurait été intéressant aussi. Hein. Alors, je ne regrette pas du tout d'avoir vu ce que j'ai vu, mais si on voit le film sans que tu sois là pour donner le contexte, eh bien, on rate une partie des choses. On voit que l'image d'un héros à la limite mythique, quoi. Et ça, je m'intéresse à la vie des militants, mais je ne veux pas non plus que ça soit l'arbre qui cache la forêt.
Non, absolument, mais tu as raison. Mais en même temps, c'est mon parti pris de film, de cinéaste. Ça n'a pas été de raconter l'histoire de cette grève, effectivement, parce que d'autres l'ont fait. Il y a eu des films quelques années avant qui racontaient. Il y a des cinéastes militants qui sont intéressés à cette grève, dont je reprends les archives, hein, que ce soit des collectifs comme Ciné Rouge à l'époque qui ont été filmés ce conflit-là, comme Terre Urbaine, qui est un collectif de cinéastes aussi militants à l'époque qui étaient plutôt maoïstes, qui ont filmé la grève. Moi, je me suis servi de cette matière-là, et comme tu le dis justement, cette photo-là, finalement, elle a circulé comme étant un symbole. Et quand les gens la voyaient, ils ne savaient pas d'où ça venait. Il n'y avait pas la légende en dessous qui racontait que c'était une grève en Bretagne en 72, etc. quoi. Puisqu'elle a été usée, elle a été utilisée par plein de gens, des collectifs, par des gens en lutte, enfin, elle a fait le tour du monde. Moi, j'ai fait, et c'est mon parti pris aussi, c'est faire une déclinaison de comment cette photo a été utilisée, quoi. Elle a été reprise, il y a un article dans Paris Match, dans Charlie Hebdo, dans de l'époque, dans La Cause du Peuple, bien sûr, enfin, à Libération. Moi, j'ai retrouvé des traces jusqu'au Japon. Bon, dans l'extrême gauche japonaise, notamment, a utilisé cette photo-là, mais en dessous, elle marchait comme symbole. C'est sûr, elle marchait comme la colère ouvrière face à la répression policière. Moi, ce que j'ai voulu y voir là-dedans aussi, ça n'enlève rien à ce message-là, auquel j'adhère, évidemment, parce que moi, j'ai été touché par cette image comme ça. Mais finalement, et monsieur parle en disant, c'est une fiction, ça pourrait être presque une fiction, mais le réel m'a offert un cadeau extraordinaire, c'est que les mecs se connaissent. Ils sont face à face, c'est des copains d'enfance qui se retrouvent l'un face à l'autre, dans des situations de conflit social extrêmement tendu. Et évidemment que c'est en ça, pour moi, enfin pour tout cinéaste, c'est une pépite, c'est formidable, quoi. Et la déclinaison après, quand on tire la ficelle, la pelote, on apprend que les mecs, ils ont été à l'école ensemble, et puis on apprend que leurs enfants, que à la fois Laurent, celui qui a perdu une main au joint français, quand même, quoi, c'est quand même extraordinaire. Il va bosser dans l'usine dans laquelle son père est intervenu contre la grève. C'est quand même extraordinaire, quoi. Ça, je réécris ça dans une fiction, le producteur ou diffuseur m'aurait dit « Mais attends, Coco, c'est bien gentil, mais ton histoire, elle tient pas debout, quoi. C'est pas possible dans le réel. » Bah si, la preuve en est. Donc moi, je suis... Voilà, ça a été pour moi... parce que je savais pas tout ça, au fur et à mesure que j'ai découvert les enjeux de cette famille, de ces deux familles qui continuent de se voir, qui... Bon, évidemment, Jean-Yvon, le CRS, vous l'aurez compris... est décédé dans les années 80. Moi, j'ai pas pu le rencontrer, malheureusement. J'aurais voulu avoir sa version des faits. Mais je pense qu'il a eu un blackout, comme on dit, quoi. Ce moment-là a révélé pour lui qu'il s'était trompé de camp. Évidemment. Et après, il a décliné. Ça, tout le monde me l'a dit. Les témoignages, de ses collègues, comme d'autres gens, etc., c'était plus le même, quoi. Qui s'est pris une claque phénoménale et qui s'est trompé dans sa vie. Et finalement, il a fini par... à tel point qu'il s'est fait une maladie, qu'il en est mort. Quoi. Enfin, je dirais que c'était tellement profond qu'il a fini par y rester. Quoi. Et ça, c'est quand même, il y a quelque chose de tragique là-dedans. Quoi. Comment finalement l'État, les classes dominantes arrivent à instrumentaliser des gens de milieux populaires pour en faire leur chien de garde. C'est le propos du film.
je ne dis pas comme ça, parce que quand on commence à dire les choses comme ça, on dit « Oh là, au secours, le dangereux gauchiste !» C'est pas ça, c'est le réel, quoi. Enfin, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé.
Oui, moi, personnellement, c'est ce qui m'avait vraiment touché. C'est vrai qu'il y a un parti pris au niveau du film, mais c'est une chose qui m'a beaucoup touché dans ce film. C'est ça, c'est, bon, l'histoire du joueur français, on peut la trouver autrement, comme tu dis, après. Cette histoire-là, par contre, on la trouve pas seule.
J'ai la question du photographe.
Oui. Alors, très bien. Alors, le photographe est super important, évidemment, puisque c'est lui qui a fait ce cliché. Alors, c'est Jacques Bourmelin. Malheureusement, il est décédé l'année dernière au mois de juillet. Bon, il avait couvert, lui, il était en fait permanent à Ouest France. Il couvrait tout ce qui se passait sur toutes les questions sociales au niveau de Saint-Brieuc et sa région. Donc lui, il était sur tous les conflits. Il était un peu plus, pardon.
Il devait avoir du boulot.
Il avait du boulot. Mais en fait, c'est le point de départ, c'est le joint. Après, il y a eu un max de boulot parce que le joint a déclenché une multitude de grèves dans le bassin briochin, évidemment. Donc après, il a suivi tout ça. Ah ben oui, je t'en parle pas, des paysannes aussi, ils y allaient fortement, quoi. Enfin, mais voilà, enfin, ça bouillonnait dans ce coin-là. Et lui, il a fait plein de clichés. Et finalement, il s'est retrouvé. Alors, c'est ce que dit Cartier-Bresson, hein, c'est l'instant décisif. Pour un photographe, il s'est retrouvé une situation à un point de tension ultime, et là il n'y avait pas d'appareil numérique où on pouvait faire clac 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 et avoir la bonne photo. Là c'était de l'argentique, avec on rechargeait, etc. Et il a fait un cliché. Ce moment-là, il a un cliché avant. Moi j'ai vu les photogrammes. Il y a un cliché avant, on voit les mecs arriver, celui-là, et puis l'autre après. Mais voilà, il a eu le temps de faire trois photos. Mais il y en a une qui, voilà, il a su, à ce moment-là, déclencher, enfin, appuyer, et c'est un instant magique pour lui, quoi. Et évidemment, c'est la photo de sa vie. C'est comme ça qu'il était reconnu et dépossédé, finalement. C'est ça qui est un peu tragique dans cette histoire. Alors, moi, je lui rends hommage, il se trouve que j'ai fait, longtemps, je me suis posé, parce que j'ai fait une séquence avec lui, avec Jacques, où on reconstitue comment... Il raconte comment il a pris cette photo, on refait le tirage, etc. C'est passionnant, mais malheureusement, j'ai pas pu l'inclure dans le film, quoi. Parce que c'était un problème d'équilibre, de montage, tout ça. Enfin bon, ça a été compliqué et j'ai dû renoncer à cette séquence-là. Ça m'a fait beaucoup de mal. Bon, mais c'est comme ça, hein, la vie, faut faire des choix. Et dans le cinéma aussi, il faut faire des choix. Même si on a des gens qui sont pertinents, des séquences qui sont fortes, bah, des fois, on est obligé de renoncer à ces séquences-là. Pour faire en sorte que le film tienne. Bon, alors j'ai fait, du coup, là, il y a quelques mois, justement, quand j'ai appris son décès, je me suis dit, merde, c'est un peu tard, mais c'est comme ça. J'ai fait une espèce de bonus au DVD, enfin, qui s'appelle Séquence retrouvée, dans lequel il y a la petite séquence avec Jacques Bourmelin, quoi. Où on voit, il y a d'autres séquences, entre autres, mais il y a celle-là, où il développe cette photo mythique, quoi. Alors, il a été dépossédé, parce que lui, très vite, il dit... Moi, je pense avoir fait une photo extraordinaire. Il dit ça à son rédacteur en chef. Le rédacteur en chef local dit « Ouais, mais bon, Ouest France, c'était pas marqué très à gauche non plus. Hein, faut se remettre dans le contexte. » Donc, ils n'allaient pas, enfin, toujours pas non plus, mais ils n'allaient pas non plus être le porte-étendard ou l'étendard de cette lutte importante, quoi. Donc, voilà. Et finalement, à Rennes, il y a eu une pression un petit peu. À Rennes, c'est passé sur l'édition régionale, pas locale, mais régionale, où il y a eu la photo. Et ensuite, c'est l'agence France Presse qui l'a récupérée et qui l'a balancée partout, quoi. Et là, ça a été repris partout, quoi. Effectivement. Et lui, comme il était permanent à Ouest France, en fait, il a signé la photo, mais il n'a jamais rien touché là-dessus, quoi. Aucun droit, que dalle, quoi. Donc, il est l'auteur de cette photo. Mais bon, il est resté après, il a continué bonhomme à l'an, enfin, plutôt, il était plutôt porté quand même par cette histoire, et à photographier les conflits. Après, il y a eu la grève du lait, justement, grève paysanne importante à Saint-Brieuc, enfin, dans le bassin briochin, où les agriculteurs, enfin, les laitiers, enfin, les. Enfin, bon, pour le prix du lait, enfin, ça a été une grève importante où il a fait de super clichés aussi. Il y a eu la grève à Mammouth, une première grève des caissières à Mammouth, à Saint-Brieuc. En même temps, dans le même mouvement que le joint français, et tout ça, étaient en communion, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait une solidarité très très forte à cette époque-là. On n'était pas cloisonné comme on l'est aujourd'hui, pas divisé comme on l'est. Les gens se rencontraient, découvraient le boulot des uns des autres, avaient de la solidarité beaucoup plus forte. Voilà, quoi. Et ces grèves, bon, c'est un contexte, hein, évidemment, c'est les 30 Glorieuses, naninana, mais elles ont été quasiment toutes victorieuses, quoi. C'est pour ça que c'était un espèce de pic dans les luttes sociales à ce moment-là, dans les années 70, 72, 73, 74. Bon, ça a été, on s'est dit, c'est bon, quoi, on va se défaire du vieux monde. Bon, ça n'a pas été comme ça, bon, c'est, voilà.
Si je ne me trompe pas, il semble qu'à un petit moment, il y a une petite scène animée où on retrouve la photo. La scène a été filmée. Il y a une toute petite séquence. Je me suis demandé ce que c'était que ces images, ça me paraît intéressant.
Là aussi, c'est une pépite. Enfin, pour moi, parce que effectivement, il y avait des opérateurs à l'époque, il y avait, ça s'appelait pas France 3, c'était, je sais pas quoi, Bretagne Actualité. Voilà. Enfin, qui était l'équivalent, qui était l'antenne régionale de FR3. Voilà. Régionale. Et donc, il tournait en 16 mm, hein. Évidemment, c'était pas les caméras vidéo, etc. Et en fait, l'histoire de ce truc-là, c'est que les mecs, ils ont un magasin, ça dure 12 minutes, donc il y a 12 minutes de pellicule, ils tournent, et c'est comme ça qu'on me l'a raconté. Et à ce moment-là, précisément, il se trouve que l'opérateur se trouve aussi à ce moment-là, dans cet instant-là, j'ai jamais pu retrouver l'opérateur, j'aurais bien voulu. De régional là, qui a fait ces images-là en 16 mm. Ça aurait été formidable aussi qu'il lui raconte cette histoire-là, comment il l'a vécu, comment il s'est retrouvé là à filmer ça. En fait, c'est fin de bobine. C'est la fin de ces 12 minutes, quoi. Et il a aussi, quelque part, c'est assez génial, quoi. Alors moi, je l'ai mis un peu en boucle, bon, pour le faire durer un peu plus longtemps, quoi. Il y a 2 secondes de plus. Voilà, c'est un peu séquencé à ce moment-là, quoi. Je l'ai remonté un petit peu pour que ça tienne un peu plus, parce que sinon c'était trop rapide, quoi.
On aurait peut-être pu avoir qui vient, et donc toi t'es resté en lien avec lui.
Bien sûr.
Si tu peux nous parler un petit peu plus de lui, enfin, maintenant, ou
bien sûr.
Pas super bien.
Alors Guy, il se trouve que il a fini par partir en retraite, hein, parce que. Non, alors il est parti en retraite en fait, alors c'est entre 59 59-60 ans, je crois, parce qu'il a pu bénéficier, là c'est en 2003, c'est le premier conflit des retraites, hein, 2003, voilà, donc pour certains ça évoque peut-être quelque chose, ou certaines, et voilà. Non, mais entre autres, oui, parce que les femmes ont été pénalisées largement sur cette réforme-là. Et donc, il est parti en retraite parce qu'au juin, justement, il a pu bénéficier des 2 années amiantes. Voilà. Parce qu'en plus de bosser comme un esclave, évidemment, tous ces gens-là se sont fait empoisonner par... bref, on ne va pas revenir là-dessus, mais ça fait partie aussi de... Oui, il aurait pu partir là, à ce moment-là.
Il aurait pu partir, ouais. Directeur jusqu'à 58.
Il a fait 59-60. Mais et alors, malheureusement, il ne peut pas bien profiter de sa retraite parce qu'on nous bassine sans arrêt que l'espérance de vie augmente partout, mais pas dans tous les milieux, évidemment.
L'espérance de vie en bonne santé.
Voilà, alors c'est ça, c'est aussi, on peut avoir 90 balais ou 80 ans, mais être en très mauvaise santé. Lui, il se trouve qu'il y a des statistiques qui montrent que dans le monde du travail, dans la classe ouvrière, finalement, les gens profitent en moyenne entre 6 années et 10 ans de leur retraite, et puis après, calanche, quoi. Voilà, qu'elle sort pipe. Et tant mieux pour ceux qui peuvent aller plus loin, mais il faut se dire que tous ceux qui ont travaillé dans des conditions difficiles, ils vivent pas très longtemps après. Et en l'occurrence, là, il va pas très bien, Guy, parce que l'année dernière, enfin au mois de janvier de cette année, il a perdu une jambe, il s'est fait amputer d'une jambe. Bon, pour différentes raisons, parce que bon, il n'est pas non plus une alimentation formidable. Donc il a un peu, on va dire que je me marre, mais pas vraiment, c'est pas rigolo, mais il a les artères un peu encrassées, et du coup, il a perdu une jambe. Et quand on le voit là, c'est un mec super actif, quoi. Il a déprimé, Mais c'est terrible, quoi, parce qu'il n'arrive pas à se faire à sa prothèse. C'est un mec qui se baladait tout le temps, enfin, qui aime rencontrer les gens, enfin, qui... Donc, voilà, enfin, c'était difficile. Moi, j'ai essayé de le faire venir là, mais il était super content de cette projection-là. Et puis, bon, il est pas l'énergie, véritablement, pour vous rencontrer. Mais j'espère, moi, en tout cas, enfin, y retourner, et puis lui relater qu'il y avait beaucoup de monde dans la salle, qu'il y avait des questions intelligentes et pertinentes, comme toujours. Enfin, mais...
Non, mais moi, quand j'ai revu la photo du joint, que j'ai vendu avec du texte autour, hein,
ah ouais,
et ça m'a fait penser au premier chef, un film qui s'appelle « Coup pour coup ». Il me semble que c'était inspiré de la lutte du joueur français. C'était un film fait par Marine Carmut, qui est devenu, en fait, qui était à l'époque le cinéma indépendant, mais qui finalement a fini par la chaîne MK2 qu'on connaît bien. Mais pour te répondre, à contrario, je trouve que ce film, il montre que les années 70, c'était pas que des gens qui sont venus comme Marine Carmut ou Serge Julli. Et que c'est un film très humain sur tous ceux qui étaient pas les enfants de la bourgeoisie, quelque part. Hein, donc, et moi, quand je vois au début qu'il est dans la manif avec la CGT, je me dis ouf, quoi. Et...
enfin, non, mais c'est un combattant.
Non, mais c'est vrai. Je trouve que c'est un itinéraire qui est intéressant, quoi.
En plus, il y a la CGT critique. Il faut bien se rappeler un truc, c'est que bon, non mais moi ce que tu dis ça me touche beaucoup parce que c'est ça évidemment c'est ça l'objet du film parce que c'est une façon aussi de parler de la militance des années 70 évidemment hein, la grève elle est partie ok mais parce qu'il y avait aussi des militants politiques dans l'entreprise c'est aussi parce qu'il y avait des curés rouges, il y en avait, hein. Il se trouve qu'il y avait des prêtres ouvriers au joint français, mais il y avait aussi des maoïstes, il y avait des établis, il y avait des militants, comme il dit, l'autre dit, des intellectuels, qui allaient donner la bonne parole aux ouvriers et leur dire comment il fallait faire la révolution. Bon. Ouais. Qui est devenu chef d'entreprise. Voilà. Et donc, il reprend une formule maoïste formidable quand il dit plus un pharao, plus il est clair. Bon, oui, c'est une autre façon de... Bon, il n'a pas perdu la rhétorique, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est un patron, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est que... Voilà. Et par contre, Guy, il est resté, lui, ce qu'il était, quoi, depuis le début, quoi. Enfin, il est resté dans son humilité. C'est un gars qui a évidemment senti qu'on posait les yeux sur lui parce qu'il a été un peu emblématique à un moment donné, mais il n'en a jamais fait plus que ça. Il est resté au contact... De ses copains, dans sa boîte, c'est pareil. À Sambre-et-Meuse, moi, je me souviens avoir visité les j'ai pas pu filmer parce que lui, il était ouvrier d'entretien des machines. Donc, c'est effectivement, il raconte qu'il circule dans toute la boîte, etc. Et dans les vestiaires, il y a la photo du joint, par exemple. Tu vois, et ça, c'est, et ses collègues, ils étaient super fiers de bosser avec Guy Burniaux et les petits jeunes aussi, on leur faisait, enfin, pas la leçon, en disant, tu vois, le mec qui est là, ben, c'est lui qui est sur la photo. Ben, c'est sûr que tout de suite, ça... Bon, respect, évidemment. Mais ça se passe comme ça. Et c'est vrai que, bon, voilà, enfin, ça, c'est de la mémoire vivante aussi. Et bon, évidemment, là, c'est en train un peu de décliner tout ça. Mais oui, ça parle des années 70 et de dire que, bon, bien sûr que les organisations politiques ont été importantes. Mais en l'occurrence, là... les Mao, tout ça, ils ont été débordés par la base. Parce que, non, mais ouais, eux qui voulaient bien contrôler tout ça, qui voulaient développer leur grand parti révolutionnaire et être le fer de lance de la révolution, ils se retrouvaient débordés par des gens, par des femmes, des hommes, presque des enfants, par la solidarité, et ils savaient plus, ça leur montait à la tête, ils savaient plus où se mettre, quoi, quelque part. Et c'est super. Alors après, ça amenait plein de gens à la politique, c'est vrai, quoi. C'est vrai qu'il y a plein de familles à Saint-Brieuc qui culturellement n'étaient pas forcément portées sur les questions politiques, tout ça, et s'y sont mis après, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a dans ces endroits-là, et dans tous les endroits où il y a des luttes, c'est pareil quand tu vas en Lorraine, par exemple, ou Longwy, tout ça, tu retrouves même dans le sud de enfin du côté de Marseille, tout ça, il y a des endroits spécifiques où quand il y a eu une tradition ouvrière forte et des conflits qui ont été victorieux, où il s'est passé des choses fortes, ben on sent que dans les générations après, il y a encore un truc qui est porté comme ça, quoi. Une transmission. Alors bon, mais il faut faire attention parce que cette transmission là, bon, aujourd'hui les choses ont changé, la jeunesse n'est pas la même, le tissu économique n'est plus le même, enfin bon, tout ça se délite un peu, donc c'est pour ça que c'est important de laisser des traces et de faire des films pour ça, quoi. Enfin, moi, je m'inscris dans cette dimension-là, quoi, voilà.
Alors, Christophe, en même temps, c'est la deuxième fois que je vois un film, je l'avais vu, en fait.
Ah bon ?
T'étais venu
Ouais, je l'ai vu, et j'ai trouvé, comme d'habitude, c'est-à-dire comme le dernier film qu'on a vu ensemble, sur les femmes...
D'égal à égal.
Une humanité absolument incroyable dans ce film qui me touche énormément en tant que syndicaliste, car je pense que si on est syndicaliste, on doit être humaniste total, et voilà. Et d'autre part, que tu sois, alors cinématographiquement parlant, que tu sois partie d'une image, et que tu en aies fait ce film me semble absolument incroyable, parce qu'il y a plein d'images que j'ai vues dans le monde sur des conflits qui soient pas, enfin, simplement syndicaux, mais des guerres et tout, et autour desquelles on devrait faire effectivement beaucoup plus de recherches. Il y a des images qui restent mortes, c'est-à-dire des images, même si elles ont fait le tour du monde, quelquefois, on ne sait pas ce qui est derrière. Donc ce que tu as fait était vraiment bien, donc je te félicite. Voilà, et puis, vive la sociale.
Et pour continuer dans ton prolongement, il y a eu aussi, enfin, je peux te dire, il y a eu quand même quelques films qui ont été faits, notamment, je pense, vous avez tous vu, j'imagine, Reprise. Bon, bah, c'est pareil, là, c'est un peu la même démarche de cette ouvrière aux usines Rondère qui, après 68, après le conflit 68, dit, j'ai plus envie de rentrer dans cette tôle, quoi, et que tout a changé, quoi. Et ce film est la forme est complètement différente, tout ça, mais ça parle aussi de tout ça, quoi. Alors, pour revenir à Marine Karmitz, qui a fait Coup pour coup, il y a aussi Jean-Luc Godard. Il se trouve que moi, j'ai découvert après. Alors, j'aurais tellement aimé. Il a fait un film en 78, justement, qui s'appelle Comment ça va. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Et dans Comment ça va, il parle en fait de la collusion du journalisme avec le pouvoir. Hein, c'est un peu son propos, quoi. Et dans Comment ça va, il parle de deux photos emblématiques. Une, c'est la révolution portugaise des œillets, où c'est un face-à-face entre un soldat avec une fleur et un portugais, enfin, de la rue, qui vient brancher un soldat. Et puis, la photo du joueur français. Donc, j'ai jamais osé écrire à Godard en disant, c'était un peu, je voulais lui envoyer le film un jour en disant, oh, tiens, ça serait marrant qu'il le reçoive, qu'il voit qu'il y a eu un film sur cette photo aussi, tu vois, enfin, 30 ans, 40 ans après, on verra. Non, mais en tout cas, moi, ça m'a fait vachement plaisir, quoi. Enfin, et il a fait un film en 72, Jean-Luc Godard, qui s'appelle Tout va bien. Et Tout va bien est beaucoup plus inspiré que Coup pour coup de Marine Karmitz, de La grève du juin français. C'est avec Jane Fonda et Yves Montand. Je sais pas si ça dit quelque chose. Et c'est un film extraordinaire. C'est un film sur une séquestration, ça se passe dans un abattoir. Et c'est un film sur la séquestration du patron de l'abattoir. Et c'est très fort. Enfin, moi, je vous conseille. C'est des films qui ressortent un petit peu. Là, il y en a quelques-uns. Là. Il y a des gens qui vont, des cinéphiles, qui vont un peu brosser, qui vont ressortir un peu des films. Ils étaient un peu mis sous silence. Et là, j'ai vu qu'ils étaient reprogrammés, il se trouve, au Forum des Images, il y a quelques temps. Je trouve formidable de ressortir ces films-là. Quoi. On en a besoin aujourd'hui. Quoi. Enfin, je ne dis pas que le cinéma. Le cinéma aujourd'hui est très vivant. Il pose des questions aussi intéressantes sur le mouvement social. Il y a eu plein de films de fait, sur des grèves. Bon, le printemps arabe a réveillé aussi beaucoup de choses sur justement cette conflictualité des hommes et des femmes. Quoi. Comment. finalement, quand la tension est trop forte, quand les gens se trouvent pas dans les camps, les révolutions peuvent se faire, en Tunisie notamment, quand l'armée a refusé de tirer sur la foule, ça a basculé. Et le propos du film, c'est ça aussi, c'est à un moment donné, il faut travailler dans des conflits, attention, et quand le rapport de force est suffisant pour les populations populaires, de faire basculer la police et l'armée du côté du peuple, parce que s'ils basculent pas, enfin dans des moments de conflit, ils vous tirent dessus, quoi. Hein, ils vous emprisonnent et voilà, c'est ce qui se passe en Syrie. La révolution syrienne n'a pas été suffisamment forte, malheureusement, pour faire en sorte que l'armée de Bachar, même s'il y a eu beaucoup de désertions, est quand même tenue, quoi.
Je voulais juste simplement demander si le premier copain d'usine là, avec qui il parle, qui est devenu cadre, est-ce que c'était un établi?
Oui, c'est bon. Oui, c'est un établi. Ouais. Il était lui au... Alors, parce qu'il y a différentes tendances chez les maoïstes, il était au PCMLF, donc Parti communiste marxiste de France ou français, je ne sais plus, enfin bref, quoi. Et entre autres... de France, ouais. Et lui avait fait le voyage en Chine, enfin bon, il avait fait tout le cursus, enfin, il était bien formaté Mao, mais il était important, c'est vrai qu'il était important quand même dans la boîte, quoi. Il a bossé 2 ans au loin français, puis après, effectivement, il n'a pas pu reprendre lui aussi, et il a suivi sa carrière d'avant, quoi, parce qu'il était étudiant, après il fait... l'école d'ingénieur, et voilà, arts et métiers, et il est responsable. Alors quand je l'ai contacté, il était content, en même temps, il disait, merde, enfin, ça lui posait un petit, mais il doute de rien, en même temps, enfin, il assume, enfin, voilà, enfin, bon, il aurait pu se poser la question en disant, j'ai mon parcours, c'est celui-là, il est simplement un peu au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire qu'il montre qu'il est socialement différent. Il montre qu'il est culturellement différent. Ben oui, mais il pourrait être beaucoup plus humble. Moi, je trouve, je pense qu'il manque un peu d'humilité, tout simplement, quoi. Non, mais moi, c'est comme ça que... je ne juge pas, mais parce que c'était comme ça. Heureusement qu'on a tous des parcours. Il ne s'agit pas, on n'est pas tous ancrés dans... Ah ben si, bien sûr. Moi, je les ai fait se retrouver, là. Ben, c'est là. Tu vois bien qu'ils ne se sont pas vus depuis 30 ans. Depuis la grève du juin, ils ne se sont pas vus. Si, il avait sa maison à Saint-Brieuc, mais il a bougé, il était sur Paris, etc. Mais lui, il a rompu avec ça, quoi. Mais en même temps, il a de beaux restes, hein. Quand il chante la chanson du juin français, on sent que ça l'habite encore, ça fait partie de sa jeunesse. Et quand on a été dans ce genre de conflit, quand on a été jeune, ça vous marque toute votre vie, évidemment. Non, mais c'est plutôt un gars bien, je dis pas c'est un sale patron, etc. Mais c'est quand même la tendance qu'il y a eu chez les établis. Beaucoup sont pas restés. Ils ont vu ce que c'était que la classe ouvrière, très bien. Et puis après, ils ont fait leur chemin, quoi, tout simplement. Sauf que la seule critique qu'on pourrait apporter aux établis, c'est qu'ils ont été un peu donneurs de leçons et un peu moralistes, quand même. C'est tout. Moi, c'est mon point de vue. Ça dépend lesquels. Ouais, c'est vrai, pas tous, mais globalement, t'es établi. Non, parle-nous-en, peut-être que... C'est vrai?
Oui, j'étais étudiante à Rennes.
Ah bah super. Voilà, c'est ça qu'il faut dire, bravo. Ouais, c'est plutôt une résonance formidable. Donc tu peux témoigner de la grande solidarité qu'il y a eu dans toute la Bretagne. C'était extraordinaire, les manifs à Rennes, Saint-Brieuc, Brest, et ils ont circulé, ils ont fait des collectes, parce que cette grève a duré 2 mois. Enfin, je reprends là-dessus sur la solidarité. Ils ont mutualisé énormément de choses. Le FOL, maire PSU, dès la première semaine de grève, quand il sent que ça va se durcir, il dit cantine gratuite pour tous les enfants grévistes. Tu vois, c'est quand même pas rien. Qui aujourd'hui, au bout d'une semaine d'un conflit, dirait maire de machin, je décide que la cantine sera gratuite pour... j'attends de voir, quoi, mais... Non, peut-être. Mais bon, en attendant, je ne vois pas des signes de solidarité. Ils pleurent tous sur la régime spéciale, spéciaux, là, justement, les parlementaires. Mais en tout cas, pour défendre ceux qui ont vraiment besoin d'un régime spécial de retraite, là, on ne les voit pas. C'est tout ce que je vois. Enfin, bon.
Deux choses. Déjà, ce qui est très savoureux, c'est la séquestration de patrons. C'est là qu'on voit qu'on a franchi une époque, quoi, parce qu'on n'imagine plus ça aujourd'hui. Et puis, il n'y a pas eu, ça fait bien longtemps quand même. Et puis la deuxième chose quand même, et là je pense qu'il faut quand même un peu aussi rétablir certaines choses, c'est que, bon bien sûr il y a cette exception, ils sont deux potes, voilà, l'un est d'un côté, l'autre de l'autre, mais globalement quand même la police et l'armée sont là pour protéger l'État. Donc c'est quand même aussi des choses qu'on pourrait se dire, ouais, il y a des flics sympas, il y a des militaires sympas, mais bon... Quand même, quoi, je veux dire, les camps, ils sont bien là, et alors, il y a des gens qui peuvent choisir par parce que là, on entend bien, la famille a poussé un peu, aurait poussé un peu, mais en même temps, on le voit aujourd'hui dans la police, et d'ailleurs, ça n'arriverait plus, parce que la plupart des gens qui sont choisis aujourd'hui dans la police ou dans l'armée, c'est qu'effectivement, ils protègent la République et l'État. Donc, je pense que c'est aussi important de pas sombrer dans un truc en disant, ouais... ils sont sympas, il y a des policiers sympas ou des militaires sympas, quoi. Ils sont là pour faire leur boulot, leur sale boulot, je dirais, quand même, mine de rien. Voilà, quoi. Donc, c'est important de le rappeler, quoi.
Ouais, bon. Moi, je suis très clair là-dessus, il n'y a pas de problème, simplement, moi, je l'ai dit, je le dis dans le film, évidemment qu'il y a un cas particulier, il y a un cas de conscience, c'est Jean-Yvon, qui est le mouton noir de la CRS 13 et qui ne s'est pas trouvé à sa place. Aujourd'hui, tu as raison. Mais il ne faut pas oublier, ce n'est pas un film qui fait l'éloge de la... Enfin, j'aurais voulu, peut-être, le mythe de la crosse en l'air. Hein. Ça renvoie à ça, ce que tu dis. Effectivement, l'armée et la police sont là pour effectivement, défendre l'État. La République, je ne sais pas, même des fois sur la République, ils ne sont pas tous d'accord. Mais bon, en tout cas, ils sont au service du capital et de l'État. Ça, c'est clair et net, quoi. Et quand on leur demande d'agir pour expulser des Roms, pour... casser une grève, etc. Ils sont là. C'est leur boulot. Bon. En même temps, il ne faut pas se leurrer. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le recrutement de l'époque était beaucoup plus populaire qu'aujourd'hui. C'est vrai que les CRS aujourd'hui, ils ont tous Bac plus 2. Ceux que vous voyez dans les manifestations, les petits jeunes là, qui ont 20 balais, enfin, ou 22 balais et qui ont casqué le bouclier, ils ont, pour certains, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4.
Non.
Si. Bien sûr, tu rentres plus, au moins, ouais, il y a du boulot, voilà, quoi, ils se posent plus la question. Et les mecs, ils disent, bon, bah merde, j'ai mon bac, j'ai fait une année de droit ou je sais pas quoi, une année de ceci, de cela, il n'y a pas de débouché, bon, il y a besoin de flics, et ben j'y vais, quoi. C'est tout. Et puis après, ils se retrouvent embarqués dans leur processus. Et ils sont plutôt bien, c'est plutôt des bonnes conditions, hein, très franchement. Alors des fois c'est bien quand ils s'en prennent un peu plein la gueule, comme ça leur rappelle quand même qu'ils sont pas là pour glander, parce que beaucoup glandent quand même. C'est quand même un métier de glande, quoi. Enfin, grosso modo, quoi. Enfin, non, j'exagère, je déconne, mais
deux choses, voilà. Moi, j'aurais dit personnellement, si tu ouvrier, ancien métal aussi, avec ta réaction de copain, c'est pour moi, c'est quelqu'un qui vit à la ville. Et quand on vient de la campagne et qu'on vit avec des copains pendant des années, ok, même s'ils sont devenus flic ou pas, parce que moi, c'est mon histoire, c'est celui-là. C'est celle d'un copain qui est venu gendarme et on a eu à s'affronter, moi en tant que responsable du service d'ordre et lui en tant que gendarme, à Chauny notamment, il y a 3 ans. Ok, cette histoire m'est arrivée. Je veux dire, on réagit pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire personnelle, le vécu personnel qui joue. Dans les campagnes, c'est ça. Ok, pour les gens qui vivent en ville, ils vont vivre de manière différente les relations. Mais quand on vient de la campagne et on vient des villes, nos relations, elles jouent. Et nos relations personnelles, nos histoires personnelles, dans des situations de conflit, ça joue pour calmer l'affaire. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Voilà. Juste pour signaler, pour la dernière fois, que le film que tu as parlé, Égal, Égal, passera le 16 novembre à la Maison des Métallos, dans le cadre de l'ouverture du festival Migrants, pour la semaine de la solidarité internationale sur le 11e.
Voilà. Je ne le savais pas.
Bah ouais,
mais alors, ici, toujours à la Maison des Métallos, d'Égal à Égal, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y aura des extraits, il y a un colloque sur l'élite. Donc le conflit autogestionnaire des LIP des années 73 à 78, dans lequel il y aura des extraits d'égal à égal. Enfin, puis il y aura d'autres, plein d'autres films, d'autres extraits. Il y aura Charles Piaget qui a animé La Grève des livres. Enfin, bon, il y aura plein de gens. Je vous invite effectivement à venir. C'est le 12 et le 13 novembre au Métallo.
Alors, juste, comme il y avait quelqu'un qui avait quand même levé le doigt, c'est vraiment la dernière personne. J'ai une grande personne, c'est Hélène.
Oui, je voulais juste dire, par rapport, quand on parlait de l'ingénieur, maintenant, ça aussi, ça n'existe plus, je pense, des patrons qui ont été ouvriers et en grève quand ils avaient 20 ans. Je pense que c'est aussi une différence avec aujourd'hui.
Merci beaucoup à vous. Bravo.